Je vais explorer un petit bout cet après-midi la notion de bienveillance dans la pratique de la méditation. Le constat du Bouddha, c'était que l'inquiétude, la colère, ça amène pas mal de confusion dans l'esprit. Et ça nous pousse à faire beaucoup d'efforts pour avoir les choses qu'on aime, les conserver, trouver une sécurité, une stabilité, être reconnu, apprécié. Et tout ça nous apporte un certain bonheur, mais c'est un bonheur qui est relativement fragile parce qu'il dépend de pas mal de conditions. C'est possible un moment et puis après tout à coup quelque chose change et la sécurité nous est enlevée. Donc son intuition, c'est que si le bonheur existe, il n'est pas à chercher dans les conditions, dans le plaisir, il n'est pas à chercher non plus dans les choses, dans les personnes, dans les situations, c'est plutôt à l'intérieur de nous qu'il faudrait regarder. Et c'est une forme de bonheur beaucoup plus durable parce que ça ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, d'un objet ou d'une personne. Ça repose sur la manière dont on se lie à ce qui est en train de se passer. Quelle relation est-ce qu'on entretient avec ce qui est là? On aspire tous à la sécurité, à la stabilité, à différents niveaux. Mais la réalité, pour nous-mêmes, pour les autres, pour le monde, ben, c'est pas vraiment ça. La réalité, elle est marquée par l'impermanence. Et ce qu'on cherche peut pas être trouvé dans un monde qui bouge tout le temps. Donc ce que dit le Bouddha, c'est que l'éveil, ça va consister à accepter cette instabilité des choses, accepter l'incertitude et puis lâcher prise plutôt que s'y accrocher. Dans l'exercice de la méditation, la bienveillance, ça concerne beaucoup l'attitude. C'est une manière d'approcher les choses avec sensibilité et avec patience. Au lieu de se braquer, de se fermer ou de juger l'expérience quand quelque chose de défiant arrive, il y a une forme de tendresse qui est possible. La pleine conscience dans l'exercice, elle est vraiment centrale. C'est elle qui nous permet d'être au contact, de nous intéresser, d'être curieux. Mais toute seule, elle ne va pas être suffisante. Pour pouvoir nous libérer de ces habitudes mentales réactives qui nous font du tort, la bienveillance, c'est un aspect qui est nécessaire à développer. En pali, la bienveillance, ça se dit metta. Et metta, c'est lié à l'empathie ou à la sympathie. C'est une manière d'entrer en relation avec les choses qui va qui ne va pas rajouter de difficultés, une manière sage d'être avec les choses. C'est une relation d'amitié qu'on établit avec les émotions, avec les pensées, avec les sensations qui sont là, avec tout ce qui se présente en fait dans le champ de conscience, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Et une conscience bienveillante, c'est une conscience qui peut accueillir l'expérience et puis s'arrêter là, hein, ne rien rajouter. Il n'y a pas de jugement, n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de commentaire, et il n'y a pas de rejet non plus. Il y a quelque chose, voilà, de tout ouvert et de très doux. Et c'est beaucoup lié à cette compréhension que la vraie souffrance, c'est pas la douleur dans le dos, c'est pas la difficulté que je suis en train de traverser, c'est vraiment comment je me positionne, le rejet que je peux faire parfois de ce qui est difficile. Et ce qu'on peut tous remarquer, c'est que quand le cœur est doux, on accepte beaucoup plus facilement nos imperfections, l'imperfection des autres, sans se mettre en colère. On ne va pas blâmer l'autre, on ne va pas se blâmer non plus pour ce qui surgit dans notre esprit. Quand les émotions difficiles surgissent, il y a un accueil, il y a une reconnaissance de ce qui est là. Et cette attitude bienveillante, non jugeante, qui peut se mettre en place. Donc la bienveillance, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est un canal sur lequel il suffit juste de se brancher. Et c'est vraiment en lien avec cette compréhension que la libération, c'est pas ailleurs et autrement que ici, maintenant, avec les choses comme elles sont. C'est Ezra Baïda qui dit: quand nous faisons la méditation de bienveillance, nous ne demandons rien. Ce que nous faisons plutôt, c'est entrer dans le vaste espace du cœur pour accueillir la vie telle qu'elle est. Donc on vient juste avec la conscience dans l'espace du cœur, on se laisse sentir la respiration à cet endroit-là. Puis on se laisse être touché quand il y a de la réactivité, quand ça devient un petit peu difficile. Et quand on peut regarder notre chaos intérieur avec ouverture, avec chaleur, avec réceptivité, on s'offre vraiment la possibilité de l'accepter sans qu'il y ait un jugement. Ça permet d'observer sans résistance, ça permet de comprendre aussi l'émotion qui est là, les pensées qui nous habitent avec beaucoup de bienveillance, et ça permet surtout d'y faire face de manière beaucoup plus calme et consciente, et consciente, sans perdre notre équilibre. Donc on pourrait dire que metta, ça consiste à chercher comment être un meilleur ami pour nous-mêmes, un meilleur ami pour les autres. Et ça consiste beaucoup, beaucoup finalement en cette rencontre avec les choses comme elles sont. Ça consiste beaucoup à apprivoiser les émotions qui sont là, à nous laisser les vivre sans paniquer systématiquement. Ou alors s'il y a de la panique, voilà, vivre la panique tranquillement. Paniquer sans stresser. Donc ça demande de nous exposer à tout ce qu'on peut ressentir, ça demande d'aller dans ces endroits un peu plus sombres à l'intérieur de notre esprit, ça demande de toucher le cœur blessé, la blessure d'amour, d'aller vraiment là où il y a la souffrance. accepter, voir, laisser être toutes ces énergies douloureuses, tout ce qui est limité, vulnérable en nous. C'est ça qui permet finalement de transformer l'expérience. Et là, je vous lis Pema Chödrön qui dit « C'est seulement en apprenant à pleinement accueillir tous les aspects de notre personnalité, même les éléments apparemment les plus négatifs de notre esprit et de notre cœur, que nous apprendrons à pleinement accueillir autrui. C'est seulement en découvrant la bonté fondamentale de notre lotus comme de notre boue que nous en viendrons à percevoir la bonté fondamentale de tous les êtres vivants. » Donc c'est changer aussi notre manière de concevoir ce qui nous arrive. Quand il y a quelque chose qui fait mal, on peut facilement en fait se fermer, on peut facilement se braquer ou alors on peut facilement juger. Être dans le déni, s'effondrer, tout un tas de réactions qui sont instinctives. Mais il y a une autre réponse qui est aussi possible à cette souffrance. Et ça, c'est la réponse du cœur. On vient avec la conscience dans l'espace du cœur et puis on respire tranquillement. On respire avec les difficultés, on les laisse se dissoudre. Il n'y a rien à changer, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et petit à petit, l'ambiance à l'intérieur devient un peu plus accueillante, un peu plus douce. Il y a quelque chose qui peut se détendre avec les difficultés. Et ça peut commencer très simplement sur le coussin. Quand on remarque, par exemple, qu'on s'était perdu dans une histoire ou alors qu'on était en train de dormir, la réponse du cœur, ça va être plutôt une forme d'étonnement. Ah ben tiens, voilà, j'étais perdue dans une histoire. Alors ça pourrait être une autre occasion de nous juger, de nous décourager, nous dénigrer. Mais on a ce choix, en fait, qui est toujours possible de faire de ce moment-là une opportunité pour développer cette attitude de bienveillance, de curiosité par rapport à ce qui est là. On peut s'intéresser à la présence, l'absence de pensée. Quand on s'endort, présence ou absence d'énergie. Il y a cette, pour moi, il y a cette image dans le film des Visiteurs ou cette scène quand ils découvrent la lumière et quand ils montent l'interrupteur, ça s'allume. C'est quand il y a de l'énergie à l'intérieur, il fait jour, il y a de la lumière, jour, puis il est tout étonné. Et puis quand il met l'interrupteur en bas, c'est nuit, tout s'assombrit à l'intérieur, nuit à l'intérieur, et on peut s'étonner tout pareillement en fait. Simplement être curieux de ces moments où c'est jour, ces moments où c'est nuit, et puis rien en faire de particulier. Il n'y a pas besoin de construire là autour tout un drame. Donc la bienveillance, elle va beaucoup participer à adoucir ce qui est exigeant ou ce qui peut être dur à l'intérieur de nous. Elle va savoir, voilà, accompagner le petit gendarme qu'on a peut-être tous à l'intérieur pour qu'il s'apaise un petit peu, qu'il puisse se détendre avec l'imperfection des choses. Avec Metta, au niveau du cœur, c'est beaucoup plus tranquille. Il y a quelque chose qui est vraiment engagé, mais qui est en même temps dégagé. Il y a beaucoup de souplesse au niveau du mental aussi. Et c'est possible même au milieu de l'agitation. Souvent dans la méditation, on se fixe sur cet objectif d'accéder à la paix, à la tranquillité, par cette absence de pensée. on pense qu'on ne devrait pas penser en fait. Méditer, c'est penser qu'on ne doit pas penser. Et puis quand on fait ça, quelque part on se coince, parce que le calme, la clarté mentale, c'est comme des bénéfices secondaires à l'exercice. C'est pas vraiment ce qu'on cherche à atteindre dans le Vipassana. Et puis ce qu'on peut remarquer, c'est que généralement, plus on va chercher à être calme et concentré, plus on va être tendu, parce que l'esprit se resserre autour de cet objectif ou de certaines idées de ce qui devrait être dans l'exercice. C'est quand c'est pas ça qu'on est amené à vivre. Voilà, il y a une crispation et une contraction. On devient vraiment tendu. Donc c'est important de comprendre que dans la méditation, c'est pas les pensées qui sont le problème. Le problème, c'est plutôt déjà de pas vouloir avoir de problème, et puis ensuite de croire en fait toutes les pensées qui nous viennent en tête. Le fait est que l'esprit, ça fabrique des pensées. C'est son travail en fait, fabriquer des pensées. Et on va pas être capable, on va pas être plus capable d'arrêter les pensées que d'arrêter le vent, par exemple. Donc il s'agit simplement de nous détendre avec les pensées et puis de laisser la sagesse venir au premier plan. Et il y a vraiment un gros ménage à faire pour connaître les pensées pour ce qu'elles sont. C'est juste des pensées, un aperçu de la réalité à un moment donné. C'est conditionné, c'est subjectif, c'est limité. C'est pas vraiment vrai. C'est notre esprit qui crée nos expériences moment après moment. Et ces créations-là, elles ont parfois l'air vraiment vraies. Elles nous semblent vraies. Tellement vraies qu'on croit à tort voir une réalité extérieure qui est indépendante à notre esprit. Mais en fait, on voit rien d'autre que notre reflet. C'est nos pensées qui construisent le monde. Et le monde, il a le poids qu'on lui donne. Et ça, c'est un des messages importants du Bouddha, ou une réalisation importante, c'est que tout est dans l'esprit. Les choses, elles apparaissent, mais elles n'existent pas comme on les conçoit, comme on suppose qu'elles sont. C'est Mingyo Rinpoche qui dit « Si vous pouvez observer les pensées, c'est comme quand on regarde la télévision. Vous n'êtes pas dans la télévision, vous la regardez. » C'est comme quand on se tient au bord de la rivière sans tomber dans le courant. Vous regardez votre télévision intérieure, mais vous restez à l'extérieur. Il y a un grand écran et de nombreuses chaînes gratuites. Il n'y a que deux problèmes. Les programmes sont un peu anciens et les rediffusions sont nombreuses. Que ça traduit bien par moment l'expérience. La bande son de notre vie, elle n'est pas très variée. C'est un peu tout le temps les mêmes musiques qui reviennent. Seulement on y croit. Et puis on fixe un moi autour de ces tendances qui se manifestent. Donc la bienveillance, elle nous invite à avoir de la tendresse pour les pensées plutôt que d'être dupe. Y adhérer ou alors rejeter. Elle nous invite à être patient avec les pensées et à surtout pas en faire l'ennemi à abattre. La pratique qu'on fait sur le coussin, ça va pas toujours dans le sens de pouvoir suggérer autre chose que ce qui est. C'est pas que quand je suis ronchon, Ouais, je décide que je vais arrêter de ronchonner. Ça marche pas vraiment comme ça. Parfois, c'est possible, j'arrive à laisser tomber le ronchonneur ou le ronchonchon. Mais parfois, c'est pas possible en fait. Les perceptions sont trop collantes, il y a trop d'identification. Alors, l'efforçage à ce moment-là, ça va être de vraiment s'intéresser au ronchonchon et puis de plonger dans cette expérience de ronchonner. Ajahn Suchito, il parle de respirer nos humeurs et découvrir où elles se trouvent dans le corps. Donc on va sentir la fermeture, la contraction, la lourdeur, la pression, la tension dans les épaules. Et puis simplement sentir le corps de cette façon très élémentaire, pression, chaleur, poids. Parfois, c'est juste suffisant pour dégager le cœur. Tout de suite, il y a quelque chose qui peut s'adoucir et se stabiliser. Donc, l'idée, c'est pas d'arrêter de ronchonner, ça va plutôt être de remarquer en fait les effets qui sont produits par les pensées. Et c'est vraiment important de bien nous laisser sentir comment les pensées nous affectent. Quand on peut reconnaître l'impatience envers les pensées, quand on peut reconnaître l'arrogance, tout de suite il y a quelque chose qui s'attendrit et puis il y a un lien à l'expérience qui est beaucoup plus détendu. Et ça va nous aider pour être plus à l'aise avec notre vie comme elle est en fait, ou comme elle vient. Donc on apprend tous à méditer avec des idées fausses, avec des frustrations, avec des essais à répétition. Et la vraie acceptation, elle exige qu'on examine tout ce qui arrive, tout ce qui se présente à nous, y compris les pensées. Donc s'il y a beaucoup de pensées dans l'instant, les pensées, elles peuvent complètement être l'objet de contemplation. On va s'y intéresser. On va voir que la conscience qui fait l'expérience d'une pensée, c'est vraiment tout autre chose que d'être complètement perdu dans la pensée et puis de croire à ce que ça raconte. Et l'autre message important du Bouddha, c'est que notre conscience, c'est notre plus grand trésor. On l'a tous déjà en nous. Sauf qu'on ne le sait pas, et puis on va chercher parfois très loin pour trouver ce trésor qui est déjà là. Et le seul moyen fiable de pas trop souffrir, eh ben c'est de accepter de souffrir. Donc pas chercher à nous débarrasser du problème, pas chercher à pas avoir de problème. Quand il y a des pensées dans l'exercice, que c'est désagréable, pas forcément nous diriger vers les pensées, pas forcément non plus nous dérober aux pensées, juste rester présent, savoir que là maintenant l'esprit est agité. Et l'agitation, c'est comme ça. Et bien sûr, quand il y a des pensées de sagesse, de renoncement, bienveillance. Alors là, c'est important aussi de pouvoir les reconnaître, puis les valoriser, les encourager. Là, j'aime bien à Jean Cha comment il parle de ce rapport aux pensées. Il utilise une image intéressante. L'activité mentale est comme un cobra venimeux. Si nous n'interférons pas avec le cobra, il passe simplement sa route. Même s'il est extrêmement venimeux, nous ne sommes pas affectés. Nous n'allons pas trop près, nous ne l'attrapons pas et il ne nous mord pas. Le cobra fait ce qu'il est naturel de faire pour un cobra, c'est ainsi. Si vous êtes malin, vous le laissez en paix. ne saisissez pas ce que vous aimez ou n'aimez pas, tout comme vous n'interférez pas avec le cobra. Celui qui est sage aura ce genre d'attitude face aux différentes humeurs qui émergent dans son esprit. Quand le bon arrive, on le laisse être bon. Nous comprenons sa nature. De même, nous laissons être ce qui n'est pas bon. Nous le laissons être selon sa propre nature. Nous ne le saisissons pas parce que nous ne voulons rien. Nous ne voulons pas le mal, nous ne voulons pas le bien. Nous ne voulons pas la lourdeur ni la légèreté, le bonheur ni la souffrance. Quand notre vouloir est terminé, la paix est fermement établie. Donc ça, c'est le défi en fait. Comment est-ce qu'on peut aimer mais ne pas vouloir? Comment est-ce qu'on peut ne pas aimer mais ne pas haïr? Le principe de base dans la pratique de la méditation vipassana, c'est d'être avec notre vie comme elle est, sans rien chercher à changer. C'est une pratique inclusive. Ça veut dire que ça inclut le fait que les choses, elles ne sont pas parfaites, le fait que je ne suis pas parfaite et le fait que l'autre n'est pas parfait. Alors, quand on parle de cultiver une attitude de bienveillance, comment est-ce qu'on peut développer la bienveillance sans tomber dans ce piège de nous fixer un idéal de plus au sujet de qui on devrait être, de comment on devrait se comporter? Et là, je vous lis encore Ezra Baïda. La plupart d'entre nous sont appelés à une pratique spirituelle par le besoin de changer leur vie. Certainement qu'au début de notre pratique, nous avons tous passé du temps à essayer de changer. Notre ressenti d'insatisfaction nous mène à nous calquer à l'image que nous avons d'être plus éveillés. Nous essayons d'être plus forts, calmes et clairs, ou moins réactifs, moins négatifs. Pourtant, en mettant en place nos stratégies pour répondre à l'image de comment nous devrions être, nous voyons que nous sommes très limités pour changer substantiellement. Nous prenons des résolutions à Nouvel An, nous faisons des régimes, nous disons que nous allons méditer tous les jours, nous essayons de ne pas être défensifs, nous essayons d'être gentils et patients, mais presque toujours, nous expérimentons la déception et la futilité de cette approche. Essayer de changer notre comportement semble juste ne pas marcher. Une fois que nous avons vu cela, la déception, plutôt qu'un dictat moral, devient notre meilleur maître. Au lieu d'essayer de changer notre comportement, nous réalisons la pertinence d'apprendre à être avec notre vie telle qu'elle est. Mais apprendre à être avec notre vie telle qu'elle est ne veut pas dire agir comme nous le voulons en manifestant de la colère et de la cruauté comme il nous plaît. Une pratique authentique est toujours établie avec l'aspiration de vivre à partir de notre vraie nature, notre nature de bonté. Donc l'idée avec la bienveillance, c'est pas de faire un effort pour devenir meilleur ou alors pour supprimer un comportement qu'on n'aime pas voir apparaître. L'intention, ça va plutôt être de connaître et puis de faire l'expérience de toutes les tendances qui émergent à l'intérieur de nous. Donc l'effort sur le coussin, ce n'est pas un effort pour devenir meilleur, mais c'est vraiment un effort pour être avec notre réactivité quand elle émerge. Ne pas l'agir, ne pas agir notre colère, mais vraiment rester présent à ce mouvement d'énergie à l'intérieur de nous. Et puis le laisser aller. Expérimenter la colère, expérimenter la peur, la mauvaise volonté, la jalousie, sans qu'il y ait besoin de les exprimer, sans qu'il y ait besoin de les réprimer, ça va leur permettre de se transformer. Ça aura moins d'emprise. Ce sera moins collant au bout d'un moment. Donc en termes de bien-être ou de mal-être, ce qui va être essentiel, c'est encore une fois comment on porte les choses. Comment est-ce qu'on rencontre l'agréable? Est-ce qu'il y a de l'attachement? Est-ce qu'il y a de la peur que ça disparaisse? Est-ce qu'il y a de la dépendance? Est-ce qu'il y a de la gratitude? Comment est-ce qu'on rencontre le conflit? Est-ce qu'il y a du calme? Est-ce qu'il y a du courage? Est-ce qu'il y a du ressentiment? Est-ce qu'il y a de la peur? Comment est-ce qu'on rencontre le neutre? Ni agréable, ni désagréable? Est-ce qu'il y a de l'ennui? Est-ce qu'il y a de la curiosité, de la confiance? Et c'est super important en fait de voir que le moment désagréable, il est multiplié en fait par notre résistance, par notre réactivité, par notre irritation. C'est important de sentir comment la douleur physique, à un moment donné, elle devient une souffrance morale parce qu'on entre en lutte avec le corps, parce qu'on refuse d'avoir mal là maintenant. Et c'est important de le voir avec bienveillance. Sentir les choses comme elles apparaissent, mais pas dans le but qu'elles deviennent autre chose. Pas les sentir non plus avec ressentiment. Les découvrir à travers les sens avec beaucoup de bienveillance. Juste maintenant, sur le coussin, chacun de nous vit des choses très différentes. Pour certains, c'est de l'impatience, pour d'autres, c'est de la colère, pour d'autres, de la tristesse, pour d'autres, de la joie, du calme. Que ce soit bon ou que ce soit pénible, c'est comme ça, en ce moment, c'est ce qui est là. S'il y a de la tristesse, ça arrive. C'est pas à moi, à propos de moi. C'est du domaine public. C'est là un temps et puis après ça change. Alors plutôt que de nous appuyer sur l'expérience, de nous identifier à ce qu'on ressent et puis de souffrir beaucoup, on peut vraiment se tourner vers ce qui connaît l'expérience. Nous lier à la conscience plutôt qu'à l'expérience. Et de cette façon, on apprend à souffrir intelligemment. Ça veut dire qu'on n'en rajoute pas une couche. Donc, dans chaque expérience qui émerge dans l'instant, l'invitation du Bouddha, c'est de tourner notre attention vers la conscience. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on est plutôt fasciné en fait par ce qui nous arrive, par le contenu, hein, les émotions, les pensées, l'histoire de ma vie, mes problèmes, ma quête spirituelle. On est triste dans la tristesse. On cherche à justifier la tristesse ou à la relativiser, on va chercher à la limiter, Hein, quelque part, on essaye de la gérer ou de la contrôler. Mais est-ce que ça marche vraiment? C'est pas sûr. Généralement, quand on bricole, on manipule l'expérience pour être un petit peu moins à l'étroit. Ça devient très personnel et très compliqué. Et ça a juste l'effet contraire. On rajoute des difficultés. Donc avec la méditation, ce qu'on apprend à faire, c'est à devenir conscient de la tristesse, à nous laisser vivre la tristesse, mais en étant détaché de l'histoire qu'elle raconte. De cette manière, la tristesse ne va plus nous attrister. C'est juste une expérience qu'on peut accueillir tranquillement et puis laisser aller. Et en elle-même, cette expérience, la tristesse, ou quoi que ce soit d'autre, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste comme elle est. Donc à chaque moment, il y a un positionnement juste à trouver pour ne pas nous perdre et souffrir plus. Rien n'a changé dans ce qui arrive. Simplement nous lier à la conscience et puis laisser être, laisser faire. Et c'est le corps qu'on laisse faire. Et je vais terminer avec une parole de Anthony de Mello. Ne changez pas, la volonté de changer est l'ennemi de l'amour. Ne changez pas, aimez-vous tel que vous êtes. Ne changez pas les autres, aimez-les tels qu'ils sont. Ne changez pas le monde, il est dans les mains de Dieu et il sait ce qu'il fait. Et si vous faites cela, le changement se produira merveilleusement, à sa façon et à son heure. Lâchez prise et laissez-vous porter par le courant de la vie, désencombré de vos bagages. Donc le but ultime de la pratique, c'est l'ouverture du cœur, cette inébranlable paix du cœur, un cœur qui est confiant, plein de bienveillance et qui est prêt à tout recevoir. J'aime beaucoup cette image du cœur qui s'incline devant tout ce qui est merveille à l'intérieur de moi, en l'autre, dans le monde, et aussi devant ce qui est horreur, inaccompli à l'intérieur de moi, dans l'autre et dans le monde.